le magazine des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité prolonge le mandat de la mission de stabilisation des Nations Unies en RDC jusqu'au 20 décembre 2019. Les grandes articulations, les grands points de la résolution dans un instant. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, mais aussi un scandale énergétique. Ce potentiel énergétique ne profiterait qu'à 17% de sa population. Un projet de promotion de mini et micro-centrales hydroélectriques mis en œuvre pour compenser ces déficits. Le PNUD a remis mardi dernier un lot de matériel au ministre de l'Énergie dans le cadre de ces projets. 10 champions onusiens à l'honneur à la MONUSCO cette semaine, ils ont été récompensés pour la prise en compte du genre dans l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie haute en couleur a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU au quartier général de la mission ici à Kinshasa. Enfin, un invité dans ce magazine, le représentant régional adjoint du HCR, fait le point sur la situation générale d'au moins 500 000 réfugiés se trouvant sur le sol congolais. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce 360e numéro du magazine des Nations Unies. Comme nous le disions en titre, nouveau mandat pour la MONUSCO, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé vendredi dernier de 9 mois le mandat de sa mission onusienne en RDC, soit jusqu'au 20 décembre 2019. Au terme de la résolution votée à l'unanimité des membres, deux priorités stratégiques sont assignées à la MONUSCO: contribuer à la protection des civils, à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État congolais. Les détails avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
La résolution adoptée par le Conseil de sécurité charge le secrétaire général de lui remettre au plus tard le 20 octobre 2019 les résultats de son examen stratégique indépendant de la mission onusienne en RDC. Cet examen comprendra notamment un plan de retrait échelonné, progressif et exhaustif. Le Conseil souligne la nécessité de transférer progressivement les tâches de la MONUSCO au gouvernement congolais et à l'équipe pays des Nations Unies afin que la mission puisse, moyennant une évolution favorable, quitter le pays selon un plan de retrait responsable et durable. Le Conseil renouvelle le mandat de la mission et, à titre exceptionnel, de sa brigade d'intervention et rappelle deux priorités stratégiques de la MONUSCO, à savoir contribuer à la protection des civils et à la stabilisation et le renforcement des institutions de l'État. S'agissant justement de la protection des civils, la mission onusienne devra notamment fournir une protection efficace, dynamique et intégrée des civils menacés de violences physiques, renforcer son interaction avec la population civile et neutraliser les groupes armés au moyen de la brigade d'intervention. Quant à la seconde priorité, il sera question pour la MONUSCO de fournir un appui afin de favoriser la réconciliation intercommunautaire, signaler au Conseil de sécurité immédiatement les violations des droits de l'homme et appuyer le gouvernement dans la consolidation d'une structure nationale civile pour une gestion équitable de ressources naturelles, indique encore les conseils. Notons enfin que la résolution prévoyant l'extension du mandat de la MONUSCO a été rédigée par la France.
En cette fin du mois de la femme, une cérémonie de remise de certificats et médailles a été organisée mardi dernier au quartier général de la mission à Kinshasa pour honorer les champions de genre des personnels de la MONUSCO qui démontrent par leur travail une sensibilité particulière aux questions de genre et à la prise en compte de ces thèmes transversales dans la mise en œuvre du mandat de la mission. La cérémonie a été présidée par Madame Leila Zerougui, chef de la MONUSCO. Jean-Pierre Elali Ikoko était témoin de l'événement.
C'est au rythme de la fanfare du contingent ghanéen que la cérémonie s'est déroulée. Au total, 10 champions et championnes du genre de toutes les sections de la MONUSCO venus de Goma, de Lubumbashi, de Bunia et de Kinshasa. Ils ont reçu un certificat et une médaille de main de la chef de la MONUSCO pour les efforts consentis afin que la dimension genre soit une réalité. Mais auparavant, Madame Leila Zerougui a mis en exergue l'importance de la dimension genre.
La prise en compte de la dimension genre est une question centrale dans le mandat de la MONUSCO, un aspect important sur lequel La mission doit régulièrement présenter des rapports détaillés au Conseil de sécurité.
La prise en compte du genre a-t-elle renchéri, a fait bouger les lignes.
L'implication de davantage de femmes dans les comités locaux de protection a par exemple permis d'accroître les alertes et améliorer la protection des populations civiles.
Parmi les heureux champions, le général Awale Abounassir, chef de la composante police de la MONUSCO et le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoul Aziz Joy, qui a exprimé sa satisfaction.
Je salue une reconnaissance de la MONUSCO pour le travail que je fais pour l'égalité homme-femme.
La cérémonie s'est terminée par une photo des familles et l'exhibition des danses traditionnelles du contingent ghanéen.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, l'OMS réaffirme son engagement à la riposte contre Ebola et à collaborer avec le gouvernement dans cette lutte. Déclaration du représentant spécial de cette agence en RDC ce mercredi à la conférence Bi-Hebdo des Nations Unies. Monsieur Peter Graf a par ailleurs indiqué les priorités de son mandat dont la plus importante est centrée sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
J'ai été nommé par le directeur général de l'OMS comme son représentant spécial pour la riposte à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est du RDC. Je serai basé ici à Kinshasa pour coordonner au niveau stratégique avec le ministère de la Santé, le gouvernement, le système des Nations Unies, les partenaires d'exécution et du financement et plus largement avec le corps diplomatique et les intervenants humanitaires. Cela dit, je me rendrai régulièrement dans les zones affectées par Ebola pour nous assurer que les discussions à Kinshasa sont fondées sur les réalités des terrains et des informations fiables. À ce sujet, comme l'a si bien dit le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, dans sa déclaration de 23 mars dernière, l'OMS réaffirmer son engagement à la fois pour mettre fin à l'épidémie et pour collaborer avec le gouvernement et la communauté afin d'établir des systèmes de santé résilients.
Le représentant spécial de l'OMS en RDC, Peter Graf, est directeur des urgences de l'OMS à Genève. Il a été également le directeur de l'ONU à la riposte contre Ebola au Libéria et en Afrique de l'Ouest. Graf a à son actif plus de 25 ans d'expérience au sein de l'OMS. Autre nouvelle, le PNUD a remis officiellement un lot de matériel au ministère de l'Énergie et des Ressources énergétiques. Ce matériel vient en appui du projet de promotion de mini et micro-centrales hydroélectriques en RDC. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État au budget faisant intérim à l'énergie, Pierre Kangoudia, devant une assistance composée essentiellement du personnel du secrétariat général de l'énergie. Le récit de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Ces lots de matériel est constitué entre autres d'un GPS différentiel avec radio externe et d'autres accessoires, une station totale avec accessoires également, un débitmètre et un éco-sondeur bathymétrique et un altimètre. Ce matériel dont du PNUD d'une valeur de 112 000 dollars sont des matériels d'études et identification des sites hydroélectriques. Ils ont été remis par les directeurs pays adjoints du PNUD à titre symbolique au ministre d'État au budget Pierre Kangoudia, assumant l'intérim de l'énergie et ressources hydrauliques. Et selon les coordonnateurs nationaux, Jules Kikanda, ces matériels sont destinés à contribuer à l'amélioration de l'accès fiable à une électricité abordable, à la sécurité énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Se confiant à la presse, le ministre d'État Pierre Kangoudia a mis un accent sur la nécessité de doter la RDC d'un réseau énergétique aux dimensions d'un grand pays. Et pour lui, le gouvernement doit jouer sa partition pour le financement de ce projet.
Le projet va coûter au total plus de 17 millions. Oui, mais il y a la part du gouvernement qui est de 13 millions de dollars. Nous avons dit que nous allons faire le lobbying nécessaire pour que cela se fasse parce que nous ne pouvons pas faire l'économie de ces investissements-là. Les Congolais ont besoin de l'électricité, le Congo a besoin de l'énergie électrique. Donc nous n'allons pas faire l'économie de cela. Voilà pourquoi nous disons que nous allons, dans la mesure du possible, et tant que nous sommes encore là, nous allons faire tous les efforts nécessaires pour que l'on puisse mobiliser ce moyen-là.
Il faut noter que le ministère de l'Énergie et le PNUD ont réalisé à ce jour 8 études de faisabilité sur 8 sites différents sur le territoire national où seront construits des mini et macro centrales hydroélectriques, toujours dans le cadre de ce projet. Le PNUD en assure la coordination et apporte son appui technique au ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques. Le budget initial du projet est de 17 millions de dollars.
Nous recevons le coordonnateur de ce projet dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme nous le disions, Jules Kikanda est coordonnateur national du projet de promotion des mini et micro centrales hydroélectriques. C'est un projet d'intérêt national qui consiste à doter à long terme la RDC de plus de 800 mini et micro centrales hydroélectriques. Jules Kikanda s'entretient avec Jean-Pierre Lali Ikoko. Suivez.
Jules Kikanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes coordonnateur national du projet mini et micro centrales hydroélectriques en RDC. C'est quoi ce projet? Depuis quand il existe et quel bilan vous faites aujourd'hui de ce projet?
Le projet de promotion des mini et micro centrales hydroélectriques, c'est un projet cofinancé par les programmes des Nations Unies pour le développement, les PNUD, les Fonds pour l'environnement mondial et le gouvernement de la RDC. C'est un projet qui vise à soutenir la stratégie gouvernementale d'atténuation des changements climatiques. Le projet a été lancé officiellement le 3 juillet 2017 et nous sommes au 20e mois de la réalisation de ce projet.
C'est la deuxième année du projet.
C'est la deuxième année du projet, effectivement.
Mardi dernier, nous avons assisté donc à une remise d'un lot d'équipements par le PNUD, un équipement topographique au secrétariat du ministère de l'Énergie. De quoi est composé ce lot?
Le lot que nous avons remis au secrétariat général à l'énergie et ressources hydrauliques est constitué par un éco-sondeur bathymétrique, comme vous l'avez dit, topographique, mais ça ce n'est pas topographique, c'est pour mesurer ou bien évaluer les reliefs maritimes. Nous avons une station totale, là c'est topographique, nous avons des GPS différentiels, nous avons un débitmètre, et nous avons...
Le débitmètre là c'est pour mesurer la profondeur de l'eau?
Non, c'est pour mesurer le débit de l'eau, le débit de l'eau. Nous avons un inclinomètre et un altimètre.
Et à quoi va servir justement cet équipement?
Et cet équipement servira essentiellement pour la récolte des données, l'identification des sites hydroélectriques à travers les pays.
Ah, donc, il y en a combien de sites dans ce pays?
Il y a beaucoup de sites dans le pays, mais jusque-là, à partir de la classe de l'énergie renouvelable qui a été réalisée par le PNUD, il y a 890 sites hydroélectriques qui ont été déjà identifiés dans le cadre des mini et micro centrales hydroélectriques.
Vous avez parlé de l'étude de faisabilité. Jusque-là, combien vous en avez fait dans le cadre de votre projet?
Dans le cadre de notre projet, nous avons déjà réalisé 8 études de faisabilité, dont 3 sont complètement terminées et 5 sont en cours.
Et pour les 3 qui sont terminées, là, est-ce qu'on va construire maintenant des centrales? Et si on va les construire, c'est où?
Tout à fait. Pour les 3 qui sont complètement terminées, nous allons passer directement à la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire la phase d'exécution. Le premier, c'est en Nganza. Le site de Nganza, c'est au Kasai central, à la périphérie de Kananga. Le deuxième, c'est à Mushuva. Mushuva, c'est au site Kivu, la cité de Miti, pour électrifier la cité de Miti. Et le troisième, le site de Langalanga, pour électrifier la ville de Lisala, dans la province de la Mongala.
Une autre question, monsieur Jules Kikanda, c'est de savoir la nature et le niveau de participation du PNUD à ce genre de projet qui est capital pour la République démocratique du Congo.
Oui, et comme je l'avais dit au début, que le projet promotion des mini et micro centrales hydroélectriques est cofinancé par les Fonds pour l'environnement mondial, les gouvernements de la RDC et le PNUD. Les coûts du projet est de 17 millions, plus ou moins 17 millions de dollars. Les fonds pour l'environnement mondial a déjà contribué à hauteur de 3 667 759 000 dollars. Le PNUD a déjà contribué en termes de 400 000 dollars et le gouvernement de la RDC a promis de participer à hauteur de 13 millions de dollars.
Oui, 13 millions de dollars. Est-ce que vous y croyez? Parce qu'on a remarqué que le gouvernement traîne souvent les pieds quant à la réalisation de projets qui sont conjointement organisés ou mis en œuvre avec les organisations internationales et aussi des agences des Nations Unies.
Je dirais que j'y crois. Moi, je suis optimiste. J'ai toujours des pensées positives et j'y crois.
Qu'est-ce qui vous fait croire?
Ce qui me fait croire, et vous avez été là, votre chaîne a été là lorsque nous avons remis le matériel. Le ministre s'est engagé à faire le plaidoyer auprès de ses collègues ministres dans le conseil des ministres pour plaider en faveur du projet.
Oui, et pour terminer, Gilles, à court terme, quels sont les objectifs de ce projet et à quoi est-ce que le peuple congolais qui souffre d'un déficit énergétique, notamment ce qui concerne l'électricité, à quoi peut-il s'attendre pour ce projet?
Et je dois préciser d'abord que notre cible, c'est les milliers ruraux. Et à très court terme, c'est à quoi on doit s'attendre, c'est que bientôt nous allons construire un réseau de distribution électrique en Bakana. Parce qu'en Bakana, il y a une microcentrale qui a été construite par le groupe Royal Forest. Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Énergie, nous a fait la demande d'appuyer pour construire le réseau afin que la population puisse bénéficier de cette électricité. Et la demande a été acceptée. Et cette année même, nous allons construire un réseau de distribution à Bitale, à Bunyakiri. Nous sommes toujours dans le site Kivu. Il y a une microcentrale qui a été construite sous le financement du PNUD et le gouvernement provincial. Et là, les fonds sont disponibles pour construire un réseau de distribution. Et comme je l'ai dit encore, que nous allons bientôt lancer les travaux de construction de la microcentrale de Nganza, la microcentrale de Mushuva et Langalanga dans la Mongala.
Oui. La République démocratique du Congo, c'était un scandale géologique, mais aussi un scandale énergétique. On l'a vu lors de la remise de l'eau, le ministre l'a répété. Et on remarque que la population ne bénéficie que de 17% de cette énergie qui est potentielle, on peut le dire. À quoi est-ce que ce projet peut influer sur la requalification de la consommation énergétique en République démocratique du Congo en faveur des populations?
Vous venez de le dire, les ressources énergétiques sont potentiel, c'est-à-dire il faut les exploiter. Alors, qu'est-ce que la population peut attendre de ces projets? Ce projet est un projet de promotion, c'est-à-dire effectivement notre rôle c'est de faire la promotion des énergies hydroélectriques, des mini et micro-centrales hydroélectriques. Nous l'avons dit que le secteur de l'électricité est déjà libéralisé. Comme nous faisons la promotion, c'est l'occasion de dire aux opérateurs économiques que le secteur est déjà libéralisé, c'est-à-dire tout investisseur peut aujourd'hui investir dans le secteur de l'électricité et se retrouver. Voilà. Donc, nous faisons la promotion des investissements. Nous faisons les plaidoyers auprès des bailleurs de fonds pour qu'ils viennent investir massivement dans le secteur de l'électricité. Et ça sera une solution pour les problèmes de déficit énergétique dans notre pays.
En tout cas, Jules Kikanda, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
En plus bref, marche pacifique des veuves orphelins des hauts plateaux de Minembwe contre les conflits armés. Près de 50 personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer les conflits armés et ses conséquences dans la région. L'objectif, selon la société civile locale, est de décourager les conflits et les affrontements entre communautés dans la mesure où toutes les parties en conflit subissent des pertes et d'autres conséquences, augmentant ainsi le nombre de veuves et des orphelins dans la région. Cette marche pacifique a regroupé les membres du communauté Banyamulenge, Bafuliro et Babende. À Beni, au Nord Kivu, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a doté lundi dernier la synergie des mouvements et la protection des populations, d'où d'un outil d'évaluation des besoins des déplacés dans cette région. Il s'agit d'un logiciel de collecte des données, comme par exemple l'enregistrement des déplacés internes. Ce logiciel permet d'identifier le nombre d'enfants ou de personnes vivant avec handicap. La remise de ce logiciel a eu lieu lors d'une rencontre de capacitation de plus de 100 acteurs étatiques humanitaires. Protection des lances. Les vagues successives de violences dans les pays ont affecté les populations et plus particulièrement les enfants au cours du mois de février 2019. La section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté et vérifié 154 cas de violations des droits de l'enfant dans le contexte du conflit armé. L'information a été livrée au cours de la conférence des Nations Unies du 27 mars dernier. Ces violations touchent 154 enfants contre 152 enregistrés au mois de janvier. 18% des victimes de ces violations sont des filles et près de 50% de ces violations ont été vérifiées dans la province du Kasaï.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Olivier Guillaume Baird, représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est notre invité. Il nous parle de la situation des réfugiés se trouvant sur le sol congolais, dont le nombre est estimé à plus de 500 000. Ils sont installés principalement dans l'est du pays. Certains vivent dans la communauté et se sont déjà intégrés, et d'autres sont dans des camps, notamment au sud Kivu. Olivier Guillaume Baird s'entretient avec Jean Gandou.
Olivier Guillaume Baird, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de réfugiés et personnes déplacées en RDC en ce jour?
En ce moment, nous avons une population de 530 000 réfugiés en République démocratique du Congo, dont des Soudanais du Sud. Nous avons également des réfugiés de la République centrafricaine, des réfugiés burundais, des réfugiés rwandais, et tout cela porte un total de plus d'un demi-million de réfugiés. Nous avons également des personnes déplacées en raison des conflits surtout intracommunautaires ou des problèmes des groupes armés. Vous avez les conflits Emalendou dans l'Ituri, vous avez les conflits Tchokwe-Luba dans le Kasaï, vous avez aussi les problèmes Toa-Luba dans le Tanganyika, vous avez les groupes armés Maïmaï, les ADF qui provoquent des déplacements de populations très importants. Nous avons eu aussi à la fin de l'année passée les expulsions de l'Angola en masse, ce qui n'a pas permis à la République démocratique du Congo de s'organiser pour recevoir ces personnes qui se retrouvent parfois à nouveau déplacées dans leur propre pays.
Et quels sont les coins où on retrouve les plus de réfugiés en République démocratique du Congo? Ils sont de quelle nationalité?
Le plus grand groupe de réfugiés en République démocratique du Congo reste les Rwandais. Vous savez qu'après le génocide de 1994, il y a eu plus d'un million et demi de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Par après, beaucoup s'en sont allés dans d'autres pays, d'autres sont retournés chez eux. En ce moment, il reste 216 000 c'est une estimation suite à l'enregistrement qu'avait fait le gouvernement, qui se trouvent principalement dans les nord et sud Kivu. Ils ne sont pas dans des camps, ils sont parmi les communautés congolaises.
Mais nous avons vu des Burundais partir de Lubumbashi vers un camp du sud Kivu.
En effet, nous avons les réfugiés rwandais qui se trouvent au nord et sud Kivu, et nous avons également, principalement dans le sud Kivu, des réfugiés burundais. Beaucoup d'entre eux vivent parmi les populations, mais il y en a qui vivent dans des sites. Nous avons deux sites, le site de Lusenda et le site de Mulongwe. Il y a 43 000 réfugiés burundais en ce moment en République démocratique du Congo, dont la plus grande partie se trouve dans ces sites-là.
Est-ce que le HCR a le moyen de sa politique?
Le HCR n'a pas pour vocation à donner l'assistance à 530 000 réfugiés. La politique du HCR, elle est d'en renforcer les capacités du réfugié de se prendre en charge. Et pour cela, nous devons mettre tous nos moyens. Mais nos moyens ne peuvent pas être les seuls moyens. Nous faisons des partenariats. En ce moment, nous avons un programme conjoint avec le PNUD pour qu'il travaille sur la gouvernance, sur l'accès à la justice dans les zones où il y a des réfugiés. Nous avons également un partenariat avec la Banque mondiale qui, par ses financements et ses projets dans le nord Ubangi, pour les populations congolaises, cela va profiter aussi aux réfugiés qui sont dans ces zones-là. Les réfugiés vivent en République démocratique du Congo. Et tous les projets en faveur des Congolais que la RDC met en place, ou les acteurs de développement, nous souhaitons que les réfugiés ne soient pas oubliés et soient inclus dans ces programmes-là. Dans ce sens-là, oui, nous avons les moyens de notre politique si les réfugiés ne sont pas exclus des programmes de développement, de renforcement de capacités, etc.
Notre épineuse question, c'est celle relative à la réinsertion sociale des personnes retournées. Généralement, quand ils arrivent dans leur village, il n'y a plus rien. Ces personnes sont confrontées à des diverses difficultés au point où il y en a qui prennent carrément la décision de repartir. Et cela pose problème.
Oui, tout à fait. Et c'est une question épineuse et qui n'appartient pas juste au HR de répondre, parce que pour réinsérer durablement quelqu'un, il faut que cette personne puisse jouir de tous les droits qui lui ont été retirés lors du déplacement. Lorsqu'il va retourner chez lui, il a besoin de retrouver ses champs. Mais il a aussi besoin de pouvoir écouler sa production. S'il a un champ, il cultive, il a des semences, mais il n'y a aucune route pour écouler sa production, il ne va pas bien vivre. Il faut également une école pour ses enfants, il faut un centre de santé. Donc là, vous abordez presque le débat du lien entre la réponse humanitaire et le développement. Aujourd'hui, la réponse humanitaire ne peut pas se faire sans déjà penser au lien avec demain, au lien avec la solution, au lien avec le développement. Et donc, qu'est-ce que c'est le lien entre l'humanitaire et le développement? C'est de nous assurer que dans ces zones-là, d'autres partenaires, des acteurs de développement, pourront également venir renforcer, réhabiliter les infrastructures, les centres de santé, les écoles, etc., pour que les personnes que nous avons assistées à retourner, peut-être à trouver un toit, peut-être à recevoir des semences pour pouvoir recultiver, il y ait après un relèvement qui soit fait par le biais de programmes de développement.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La relocalisation de la coordination des activités de la riposte contre Ebola de Beni à Goma, c'est la question posée aux représentants spéciaux de l'OMS en RDC au cours de la conférence des Nations Unies le 27 mars dernier.
Benoît Kambéré pour les échos de la région des Grands Lacs et l'émergence. Je voudrais m'adresser aux représentants spéciaux de l'OMS. La coordination centrale a été délocalisée de Beni à Goma. Est-ce qu'il y a une raison valable pour délocaliser ce centre de Goma qui, à notre avis, s'éloigne du lieu d'opération?
Il y a deux raisons pour ce changement. Le premier, c'était que Beni, qui était l'épicentre du riposte pendant une certaine période, la situation là-bas est maintenant beaucoup mieux. Quand le virus est arrivé au Butembo et Katwa, il y avait un risque réel que ça avance plus loin, Lubero et éventuellement peut-être Goma aussi. Alors c'était important pour se vraiment préparer, d'une façon opérationnelle sur Goma pour la riposte. Deuxièmement, c'était pas possible pour tous les partenaires stratégiques, les partenaires financiers, les partenaires techniques, d'être au Beni au cas de risques de sécurité. Et c'est plus facile pour eux d'être au Goma. Ça veut dire que c'est plus facile d'être ensemble dans un endroit à Goma avec des partenaires importants pour la riposte. Mais vous avez raison, c'est assez loin du riposte à Butembo et Katwa. Et ça veut dire que là-bas, on a une équipe assez indépendante qui travaille seulement sur le travail opérationnel dans cette zone d'épidémie. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Déjà ce 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation de l'autisme. Le 4 avril, la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Et le 6 avril, journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est bien la fin de cette émission. Moi, ce Jacques-Yves Molima Aouta Missouma Pumbadoua, je vous l'ai présenté, était à la technique Alain Ngoï, à la réalisation, au reportage et à la coordination Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martin Sebujangoui. Excellente journée dominicale à tous.